Bonjour, comme chaque samedi à cette heure-ci, nous allons laisser de côté l'actualité de ces dernières heures, développée dans nos journaux, et nous intéresser à une semaine d'événements.
Une semaine d'actualité, Pierre-Édouard Deldic.
Heureux de vous savoir au rendez-vous, nous allons une nouvelle fois parcourir le monde avec les reportages de la rédaction. Nous partirons ainsi pour l'Australie, le Liban, le Burkina Faso, le Nigeria par exemple. Nous reviendrons sur la fin de l'opération Barkhane annoncée jeudi par le président Emmanuel Macron. Et une fois n'est pas coutume, nous allons parler football. Alors qu'a commencé hier le championnat d'Europe des nations, l'Euro 2020, reporté en 2021 pour cause de Covid-19. Et notre invité n'est autre qu'Annie Gasnier, qui chaque jour, vous le savez, vous propose Radio Foot International. Bonjour Annie.
Bonjour Pierre-Édouard et bonjour à tous.
Il se passe toujours quelque chose dans le monde du football, mais là, le mois qui s'annonce va être chargé, non ?
Il va être animé, en tout cas, plutôt autour des terrains et autour des ballons, et ça sera motivant.
En tout cas, je suis ravi de vous avoir à ce micro, c'est la première fois, c'est un événement.
Pourtant, hein, on travaille pas loin de l'autre, mais
pour ne rien cacher, nous sommes voisins à la radio. Une semaine d'actualité, un magazine que vous pouvez retrouver podcasté sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio, www.rfi.fr. Retrouvez-nous aussi à la page Une semaine d'actu de Facebook. Vous pouvez également vous y abonner. Avant de parler football, Annie, partons pour l'Australie qui a été au cœur d'une opération internationale menée contre le crime organisé par la police du pays, mais aussi par d'autres polices du monde, dont le FBI. 800 criminels auraient été arrêtés, a signé Grégoire Pless.
Aujourd'hui, le gouvernement australien, partie prenante à une opération mondiale, vient de porter un coup très dur au crime organisé, pas seulement dans ce pays, mais qui aura aussi des répercussions sur tous les réseaux criminels à travers le monde.
Le Premier ministre australien Scott Morrison ne cache pas sa fierté ce matin quand il annonce les résultats de l'opération Ironside. Avec le concours du FBI et de la police néo-zélandaise, cette enquête aura permis d'arrêter plus de 200 membres d'organisations criminelles et d'empêcher plus d'une vingtaine d'assassinats. Ciblé. Un coup de filet rendu possible grâce au décodage en temps réel par la police de messages échangés par les criminels sur une application de messagerie cryptée baptisée Anom et qui en fait était sous le contrôle du FBI. En se plaçant directement dans la poche des criminels, pour reprendre l'expression du chef de la police fédérale australienne, les enquêteurs ont ainsi pu déjouer 20 tentatives d'assassinat, saisir plus de 3 tonnes de stupéfiants ainsi qu'une trentaine de millions d'euros en liquide.
C'est un tournant dans l'histoire du maintien de l'ordre australien.
L'avis de Scott Morrison est partagé par la police néo-zélandaise pour qui cette opération est la plus sophistiquée au monde contre le crime organisé. Dans ce pays, 35 personnes ont été arrêtées, tandis qu'aux États-Unis, le FBI n'a pas encore communiqué les résultats de cette opération.
Et finalement, donc, 800 criminels ont été arrêtés. Nous nous approchons du football maintenant. Annie Gasnier, c'est un des fleurons architecturaux de la place de la Concorde, en plein cœur de Paris. Donc, l'hôtel de la Marine, entièrement rénové, a été inauguré jeudi par le président français Emmanuel Macron. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, était sur place car la Fédération internationale de football va s'installer dans cet hôtel particulier. Emmanuel Macron a confirmé en effet qu'une antenne de la FIFA s'y installera, vouée en grande partie à développer les relations avec l'Afrique et le monde francophone. Alejandro Valente, jeudi.
Entre la FIFA et l'Afrique, c'est effectivement une affaire qui roule. Depuis l'arrivée de Gianni Infantino à la présidence de la FIFA en 2016, le continent africain est un enjeu prioritaire. Le nouveau patron du football mondial s'est fortement engagé dans l'élection d'Ahmad, puis de Patrice Motsepe cette année à la tête de la Confédération africaine de football. Et sa volonté de faire de l'Afrique un acteur majeur du football est une certitude. Cette installation d'une antenne assez importante de la FIFA, on parle tout de même d'une centaine de personnes à l'hôtel de la Marine, s'inscrit dans ce rapprochement. Paris, avec ses liaisons aériennes nombreuses avec l'Afrique, devrait faciliter les relations entre la FIFA et les fédérations africaines et avec la francophonie en général. D'autant qu'entre Gianni Infantino et Emmanuel Macron, le courant passe. Pour preuve, la présence du patron de la FIFA dans le déjeuner que le président de la République a partagé aujourd'hui avec l'équipe de France à Clairefontaine. Et puis, la restauration de l'hôtel de la Marine a été financée par un autre pays cher au président de la FIFA, le Qatar, organisateur de la prochaine Coupe du Monde.
Annie Gasnier, avant de parler de cette installation étrange, aller à Paris pour s'occuper de l'Afrique, je voudrais qu'on rappelle, grâce à vous, à votre expertise, ce qu'est la FIFA. La puissance de la FIFA.
Oui, la puissance, parce que la FIFA coordonne le football au niveau mondial. C'est donc la Fédération internationale de football amateur. Le mot est amusant parce que effectivement, c'est plus amateur depuis longtemps et c'est même devenu une machine complètement en prise avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, en tout cas avec le football business, hein, tel qu'est devenu le football. C'est d'abord la gardienne du temple quand même, la FIFA, c'est-à-dire qu'elle coordonne les confédérations internationales. Elle a évidemment des prises directes avec les fédérations. On voit notamment en Afrique, quand il y a des élections qui se passent mal au niveau des instances fédératives, eh bien la FIFA intervient, elle a ce droit-là. Et elle menace aussi parfois certaines équipes, si elles s'en prennent à la justice commune, d'être déclassée, de descendre de division. Donc elle a un pouvoir énorme. C'est la gardienne du temps, du football, des règles aussi, avec même l'International Board qui décide des règles, qui les affine sur la main, sur les pénalties, sur plein de choses. Donc elle coordonne au niveau mondial et elle veille théoriquement aussi à l'expansion du football. C'est pour ça que la désignation par exemple du Qatar était dans le but de se rapprocher plus vers l'Asie qui jusqu'à présent, même s'il y a eu la Coupe du Monde par exemple en 2002 entre la Corée du Sud et le Japon, ce sont deux petits pays où il y a du football. Mais par exemple la Chine, c'est encore une zone d'ombre un peu, même si beaucoup de joueurs internationaux y ont couru à un moment où il y avait de l'argent. En ce moment, les autorités essayent de construire en mettant les fondations.
FIFA qui a été secouée ces dernières années par un certain nombre de scandales.
Oui, en 2015, avec la chute du super puissant Sepp Blatter, les histoires autour de la FIFA ne dataient pas de Sepp Blatter, qui était le secrétaire général de Juan Avalanche, qui était le Brésilien, qui est resté lui aussi très longtemps au pouvoir. Et c'est un peu une zone d'ombre, la FIFA, parce qu'elle a énormément de pouvoir. Elle a plus de nations que les Nations Unies, parce que, par exemple, pour ce qui est de
193 États membres à l'ONU,
voilà,
il y en a plus à la FIFA.
214 ou 215, ouais. Si je me trompe pas. Par exemple, l'Angleterre, enfin la Grande-Bretagne, vous avez le Pays de Galles, vous avez l'Écosse, vous avez l'Irlande du Nord, vous avez l'Angleterre. Ça fait quatre équipes. Donc effectivement, eux, ils ont inventé le football, ou en tout cas, ils ont créé les règles. Mais il y a beaucoup de nations, et Gianni Infantino aujourd'hui, mais Sepp Blatter à son époque, quand ils arrivent dans un pays, on leur déroule vraiment le tapis rouge, on les reçoit comme des chefs d'État. Ils sont reçus par les chefs d'État, et ça leur donne une puissance énorme, parce que d'abord, c'est une puissance effectivement financière. C'est une grosse machine, la FIFA.
Mmh. Annie, quel sens donner à ce déménagement d'une partie de la FIFA à Paris ?
Alors, on s'interroge encore, parce que d'abord, la FIFA n'a pas voulu communiquer. Hier soir, il y a eu finalement des explications au sujet de ce déplacement, on va dire. Alors, théoriquement, c'est... Alors, d'abord, on peut se dire que ça serait un retour aux sources, puisque la FIFA a été créée à l'époque, en 1904, par Jules Rimet.
Ah oui.
Et jusqu'en 1970, la Coupe du Monde portait le nom Jules Rimet. C'était un très joli trophée. Et à l'époque, on disait que quand on l'avait gagné trois fois, ce qui a été le cas du Brésil, eh bien, on l'a gardé. Et il l'avait gardé. Malheureusement, elle a été volée, elle a été fondue, donc elle n'existe plus. Mais on a des représentations, bien sûr, de la Coupe Jules Rimet. Et puis, après, dans les années 30, où le contexte, surtout politique, évoluait bizarrement, eh bien, Jules Rimet avait choisi de la mettre en terrain neutre, ou ce qu'on pensait être neutre, qui était la Suisse. Et donc, elle s'est retrouvée à Zurich. Et depuis, c'est un peu le phare du football en Suisse, à Zurich. Est-ce que c'est difficile d'atteindre Zurich pour les responsables des fédérations et confédérations ? Bon, on le découvre, à l'heure où pourtant voyager et se déplacer était de plus en plus facile jusqu'à la pandémie. C'est soi-disant aussi pour se rapprocher des Africains. Nous, on fréquente beaucoup les dirigeants africains. Ils ne sont jamais beaucoup plaints que ce ne soit pas à Paris. Donc c'est un peu une interrogation... On sait aussi que Gianni Infantino a pas mal de problèmes avec la justice de son propre pays en Suisse. Alors est-ce que c'est aussi un peu pour faire du chantage en disant, vous voyez, on peut aussi changer le siège de la FIFA On comprend pas trop l'argument premier étant, on se rapproche du lieu parce que ça a été créé tout près de la place de la Concorde et l'hôtel de la Marine est sur la place de la Concorde. Maintenant, ça sera dans des locaux effectivement du Qatar. Le Qatar est un des grands pourvoyeurs.
Encore le Qatar.
Un des grands pourvoyeurs du monde de l'argent qui est le football aujourd'hui. Donc, voilà, un des grands, notamment sponsors hein, des compétitions en général. Donc, on se pose encore des questions.
Sept jours dans le monde.
Et direction l'Angleterre, Annie Gasnier, où pour la première étape de son voyage en Europe, premier voyage à l'extérieur des États-Unis, Joe Biden a rencontré jeudi le Premier ministre Boris Johnson, qui fut un chaud partisan de Donald Trump. Correspondance de Muriel Delcroix.
Une grande bouffée d'air frais, voilà comment Boris Johnson a résumé sa rencontre avec Joe Biden. Au terme de leur face-à-face, Boris Johnson a esquivé la différence de vue avec son hôte autour du protocole nord-irlandais post-Brexit et affirmé que les deux hommes étaient en complète harmonie sur la nécessité de résoudre les problèmes dans la province britannique. Idem pour Joe Biden qui s'est félicité de discussions très productives. Pour Washington comme pour Londres, la priorité est d'appuyer sur le bouton reset, de réinitialiser à la fois leurs relations mais aussi leur position sur la scène internationale. D'où la très symbolique charte de l'Atlantique revitalisée pour faire face ensemble aux défis du changement climatique, des technologies émergentes, de la cybersécurité et des crises sanitaires. Le président américain, critiqué pour avoir tardé à partager des vaccins avec le reste de la planète, a d'ailleurs confirmé que les États-Unis allaient acheter 500 millions de doses de vaccins contre le Covid pour les donner à d'autres pays. Mais pour être à la hauteur de leurs promesses et emmener avec eux leurs partenaires du G7, Londres et Washington devront être beaucoup plus ambitieux que la mise en place d'un groupe de travail pour assurer la reprise des voyages entre les deux pays.
Le G7 en Cornouailles est à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr. Partons pour le Liban maintenant, critiqué pour son rôle dans la crise économico-financière qui secoue le pays. Riyad Salamé, le président de la Banque centrale, un des hommes les plus riches du pays du Cèdre, est désormais dans le collimateur des justices suisses et françaises qui se penchent sur la provenance de son riche patrimoine en Europe, alors que le pays est exsangue, on le sait. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et blanchiment en bande organisée, correspondance de Paul Khalife.
Une grande partie de la population libanaise estime que Riyad Salamé est responsable de la pire crise financière de l'histoire du pays. Celle-ci se traduit par le blocage des dépôts par les banques, la dévalorisation aux deux tiers des épargnes et la dépréciation de la livre. La monnaie nationale a perdu 90% de sa valeur face au dollar, provoquant un effondrement brutal du pouvoir d'achat. Tous ces malheurs qui se sont abattus sur les Libanais en moins d'un an sont imputés à Riyad Salamé, appelé le gardien du système qui a mis le Liban à genoux. Après la Suisse, le patron de la Banque centrale fait donc l'objet d'une enquête en France pour biens mal acquis suite à deux plaintes déposées par des associations de lutte contre la grande criminalité financière. Les plaignants affirment que le patrimoine global de Riyad Salamé en Europe dépasserait aujourd'hui les 2 milliards de dollars, une fortune que ne peut justifier son salaire. Les taux se resserrent sur le patron de la Banque centrale au Liban même, où plusieurs collectifs de militants et d'avocats ont déposé des plaintes contre lui. Malgré tous ces déboires, Riyad Salamé continue de décider des grands choix monétaires et financiers d'un pays en crise, où il possède toujours de solides appuis au sein de la classe politique et des médias.
Retenez aussi cette semaine que la justice internationale a confirmé mardi la condamnation à perpétuité désormais définitive de l'ancien chef militaire serbe de Bosnie, Ratko Mladic, pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre commis pendant la guerre de Bosnie de 1992 à 1995. Partons maintenant pour le continent du football, Annie Gasnier, avec l'Afrique bien sûr, je veux parler de l'Amérique latine. Sachez d'abord qu'une délégation de la Commission interaméricaine des droits de l'homme a effectué une mission d'évaluation en Colombie. Rappelons que le pays est en proie à une fronde sociale qui a fait à ce jour plusieurs dizaines de morts et des milliers de blessés. Direction le Brésil ensuite, la Cour suprême a donc autorisé jeudi le déroulement de la Copa América de football. On reparle de football donc dans ce pays où près de 480 000 personnes sont mortes du Covid-19, tout en demandant l'adoption d'un strict protocole sanitaire à Sao Paulo. Martin Bernard.
Un sénateur avait surnommé la Copa América le championnat de la mort. L'opposition avait fait appel à la Cour suprême pour éviter le déroulement de la compétition en pleine pandémie. Mais finalement, 6 des 11 juges de la Cour suprême ont accordé leur feu vert à la Copa América en territoire brésilien. Avec quelques bémols cependant, une magistrate a évoqué les risques d'une Copa virus et demandé des mesures pour éviter la circulation de nouvelles souches. Le Brésil, qui enregistre près de 2000 morts par jour, redoute en effet le déferlement d'une troisième vague encore plus meurtrière que les précédentes. De plus, la décision de transférer cette compétition, qui aurait dû avoir lieu en Argentine et en Colombie, vers le Brésil, a été prise sans base scientifique, estime un autre juge. Il affirme toutefois qu'il n'est pas du ressort de la Cour suprême d'annuler la Copa América. Quant aux joueurs du 11 brésilien qui avaient esquissé un mouvement de révolte, ils ont finalement confirmé qu'ils participeraient bien à la compétition dès dimanche à Brasilia contre le Venezuela.
Donc il y a l'Euro 2020 en Europe et la Copa América qui a commencé dans un contexte très curieux. Annie Gasnier.
Dans un contexte
curieux. Je rappelle à nos auditeurs qui ne sont pas les plus fidèles ou qui sont auditeurs depuis peu que...
Plus jeune.
Je n'ai pas dit ça, Annie, que vous avez été correspondante de RFI en Argentine et au Brésil.
Oui, pendant...
Donc c'est un continent que vous connaissez
bien. Pendant longtemps. Ouais. Effectivement, c'est l'Argentine et la Colombie qui devaient organiser cette nouvelle édition de la Copa América, la 47e du nom. Hein. C'est amusant parce que c'est la plus vieille compétition internationale qui existe dans le monde du football. Elle avait été créée en 1916. Et cette édition... Alors le rythme de la Copa América, on l'a jamais trop compris, c'est une fois tous les 2 ans, une fois tous les 3. Après on veut changer d'année paire en année impaire, donc on essaye d'échanger. Donc après il y a la Coupe du Centenaire, enfin on a l'impression qu'on a une presque tous les ans. En tout cas, ça devait être en Colombie et en Argentine. Finalement la Colombie, pour des problèmes de crise sociale, ouais, a renoncé à l'organiser. Puis l'Argentine, ça a été pour des raisons sanitaires. Et là, tout d'un coup, la Conmebol se met d'accord avec le Brésil qui l'a organisé en 2019. Alors que Martin Bernard vient de le dire, on compte actuellement au moins 2000 morts par jour officiellement, et qu'on a un pays où les autorités nient la pandémie, où le président Bolsonaro, il y a quelques jours, a encore fait la promotion de la chloroquine en disant que c'était le remède miracle au problème du Covid. Donc finalement, on comprend pas pourquoi c'est ce pays qui l'organise. Et apparemment, ils veulent libérer l'intérieur des stades. Alors, il y a des maires qui commencent à dire, par exemple, le maire de Rio, Eduardo Paes, avait dit s'il y a une recrudescence, eh bien, ça sera à huis clos. Donc pour l'instant, c'est un peu dans le flou, même si ça commencera donc dimanche, et même si tout le monde se prépare déjà. Il y a 10 équipes, il y a deux groupes, on a modifié quand même l'organisation, ce qui fait que ça sera un peu moins intéressant. L'Argentine, sur le plan sportif, on a des stars, on a Messi, on a Neymar, on a Cavani, on a Suarez, on a plein de joueurs dans presque toutes ces équipes, le Chili ou encore la Colombie. Donc c'est une compétition intéressante, mais qui se fera dans un contexte un peu spécial. Est-ce que le Brésil aura la tête à ça? Alors en même temps, les Brésiliens, ils ont à chaque fois qu'ils ont disputé la Copa América à domicile, ils l'ont remporté. Donc Messi, qui aimerait tant remporter un trophée avec l'Argentine, eh bien c'est un peu le défi qu'ont les Argentins face aux Brésiliens.
Olivier Guez, que nous recevrons demain dans le magazine Idée, va nous expliquer sans doute, parce que il s'y intéresse de très près, cet amour du football en Amérique latine, vous le confirmez?
Oui, c'est une passion qui est arrivée d'ailleurs à travers les Anglais, hein, à l'époque quand ils construisaient les chemins de fer, ou quand ils étaient là pour des entreprises. Par exemple au Brésil, c'était une entreprise de gaz à Sao Paulo, et il y avait un Brésilien qui était parti en Angleterre, qui était revenu avec un ballon, et on a commencé à jouer entre ouvriers, et puis après, et c'est un sport très populaire, après il y a eu l'intégration des métis, l'intégration des noirs, il fallait se grimer, et puis après il y a eu les stars, les grandes stars du monde du football, et puis les premières coupes du monde ont eu lieu là-bas, 1930 en Uruguay. Donc c'est vrai que ce sont des pays qui ont la passion de ce sport, même si malheureusement les dirigeants du football, que ce soit en Argentine ou au Brésil ou ailleurs, restent très longtemps en place. Ils ont été un peu victimes de toute l'épuration récente, mais par exemple, le Brésil, il y a une confédération et c'est elle qui organise le championnat. Alors qu'en France, on a la fédération qui s'occupe de l'équipe nationale, en gros, et après, on a une ligue qui s'occupe du championnat. Donc, il y a un mélange des genres. Et puis, on voit que malheureusement, actuellement, ce football est devenu un pourvoyeur des équipes européennes. Le nombre de joueurs, je crois que c'est 20 sur 24 dans l'équipe du Brésil qui jouent en Europe. Donc c'est pour dire que malheureusement, les championnats là-bas ont baissé de niveau, sont moins fascinants qu'avant. Même un Fla-Flu, qui est le derby de là-bas, même un Boca River, sont devenus moins intéressants.
Annie, vous savez mieux que quiconque que la géopolitique interfère dans le monde du football. Par exemple, jeudi, l'UEFA a informé l'Ukraine, qui est une des équipes participantes à cet Euro, qu'elle pouvait conserver sur son maillot de football une carte de son territoire incluant la Crimée, mais qu'elle devait en retirer le slogan « Gloire aux héros » en raison de sa connotation politique et militaire. La politique n'est jamais loin. Hein.
Non, la géopolitique... d'ailleurs, il y a un ouvrage qui vient de sortir qui s'appelle « Football Club Géopolitique » parce qu'on a parlé de la Turquie cette semaine dans Radio Foot International. Alors là, on a une équipe qui est un peu liée à ce côté très patriotique, un peu orchestré par le pouvoir, mais qui a un peu aussi toujours été en Turquie. Donc c'est vrai qu'on a des points comme ça qui montrent les liens très forts. Par exemple, l'Ukraine, on parle de l'Ukraine. L'Ukraine, théoriquement, ne peut pas rencontrer la Russie. Ou alors, il faudrait qu'ils aillent jusqu'en quart de finale. Et on n'est pas sûr que ces deux équipes y arrivent. Mais à travers le football, c'est le reflet d'une société. De toute façon, le football, on le voit très bien à différents niveaux. Tout ce qui est bling-bling dans la société se retrouve derrière les footballeurs, les enjeux financiers, les sponsors, les constructions de stades pharaoniques ou pas. Tout est reflet d'une société, en fait, dans le football.
Une semaine d'actualité.
Arrêtons-nous en France un instant, Annie Gasnier. La France qui connaît un climat pour le moins tendu sur le plan politique, avec bien sûr la gifle à Emmanuel Macron mardi. Nous allons en reparler. Cette semaine a d'abord commencé avec des propos étranges de Jean-Luc Mélenchon dimanche midi sur l'antenne de France Inter, laissant entendre qu'il y aurait un acte terroriste avant la prochaine élection présidentielle. Écoutons-le.
Vous verrez que dans la dernière semaine de la campagne présidentielle, nous aurons un grave incident ou un meurtre.
Ces propos ont immédiatement déclenché des réactions dans le milieu politique. Aurélien de Vernois.
Un naufrage politique et républicain, selon le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Grave, décevant plus qu'un dérapage, d'après la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili. Le gouvernement fait feu de tout bois pour condamner les propos de Jean-Luc Mélenchon. Des propos dont il dénonce l'ambiguïté, comme la ministre déléguée chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa sur RMC.
Hier, Monsieur Mélenchon a dit à l'antenne d'une grande radio,
oui, France Inter,
qu'il y avait avant chaque élection présidentielle, qu'il y avait comme par hasard un attentat, en mentionnant la responsabilité d'un « il » au pluriel, très vague, et on a un mélange de paranoïa
écrit
et
d'avance.
Ils sortent des candidats de leur chapeau, ils commettent des attentats. Difficile en effet de faire la distinction dans les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Pas facile donc pour les insoumis de mener la contre-offensive, à l'image de la députée Clémentine Autain sur CNews.
Jean-Luc Mélenchon n'est pas complotiste. Ce sont les assassins qu'il vise dans ce moment-là. Ses propos ont pu être mal interprété.
Car selon les insoumis, tout est clair. Les terroristes cherchent à influencer les élections et l'extrême droite en profite pendant qu'une oligarchie de l'ombre pousse des candidats ultralibéraux. Reste que c'est avec un message brouillé que Jean-Luc Mélenchon s'avance à moins de 2 semaines du premier tour des élections régionales.
Jean-Luc Mélenchon qui a ensuite condamné la violence d'un rappeur d'extrême droite, dont il n'est pas nécessaire de donner le nom ici, qui dans une vidéo met en scène l'exécution d'un électeur de la France insoumise. Une enquête est ouverte. La gifle, c'est le titre d'un film français de Claude Pinoteau, sorti en 1974 avec Lino Ventura et Isabelle Adjani. Nous allons parler de la réalité de 2021 et de la gifle qu'a reçue mardi Emmanuel Macron. Gifle donnée par un militant proche des royalistes, semble-t-il, qui aurait lancé avant son acte « Montjoie Saint-Denis », un cri de ralliement en quelque sorte, qui remonte quasiment aux croisades. Anthony Latier.
La scène se déroule aux abords du lycée hôtelier de Tain-l'Hermitage qu'Emmanuel Macron vient de visiter. Le président est en bras de chemise, il se dirige vers un groupe de personnes rassemblées derrière des barrières de sécurité. Un homme prend alors son bras et de son autre main donne une gifle au chef de l'État avant que les services de sécurité de l'Élysée n'interviennent. Très courte scène que l'on peut voir sur une vidéo amateur qui circule sur les réseaux sociaux car à ce moment-là, aucune caméra officielle, aucun journaliste n'est présent. L'Élysée confirme cet incident mais minimise en parlant de tentative de gifle. Juste avant son geste, l'homme crie « Montjoie Saint-Denis », une référence royaliste, puis « Abat la Macronie ». La préfecture indique que 2 personnes ont été interpellées après l'agression. Le chef de l'État a ensuite poursuivi son déplacement par un déjeuner dans un restaurant de Valence.
Et l'auteur de la gifle a été condamné à 18 mois de prison, dont 4 mois ferme. J'ajoute que le Conseil d'État a infligé un sévère désaveu à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, en annulant plusieurs dispositions phares du schéma du maintien de l'ordre, dont la technique de la NAS et l'obligation faite aux journalistes de quitter les manifestations.
Sept jours en France.
Parlons foot donc à Nice, cela va détendre l'atmosphère quelque peu. Et parlons de l'équipe de France qui affrontait mardi soir en match amical de préparation, le dernier match de préparation à l'Euro, l'équipe de Bulgarie, victoire 3-0. Antoine Grenier.
C'est bien connu, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Sur ce plan, Karim Benzema et Olivier Giroud passent du bonheur au malheur à tour de rôle. Le 15 mai dernier, le peu de temps de jeu du second avec Chelsea permettait au premier de revenir en équipe de France après quasiment 6 ans d'absence. Hier soir, au Stade de France, la blessure de Benzema a offert à Giroud l'occasion d'inscrire un doublé. Le buteur remplaçant des Bleus désormais à 46 réalisations à 5 longueurs de Thierry Henry. De quoi satisfaire son sélectionneur Didier Deschamps.
J'avais prévu de le faire rentrer moins de temps, mais ça reste un buteur avec un moral et un mental à toute épreuve, donc je vais pas me plaindre de ça et le groupe en aura besoin aussi, même si évidemment je crois qu'il a plus joué ce soir que les 3 derniers mois réunis. Il a cette volonté et cette capacité à être souvent efficace.
Deschamps qui a tenu à rassurer sur l'état physique de Karim Benzema, un simple coup au genou selon le sélectionneur. Les Bleus concluent ainsi une préparation pour l'Euro presque parfaite. 6 buts marqués, aucun encaissé en 2 matchs. La confiance est au plus haut, à moins d'une semaine du choc du 15 juin contre l'Allemagne.
Donc ça y est, on a gagné, non ? Déjà ?
Ça serait si simple, mais heureusement qu'un match n'est jamais joué à l'avance. Et c'est toute la magie et toute la beauté du football, c'est que parfois, le petit peut battre le grand.
Oui. Alors, est-ce que la France est faite pour avoir le statut de favori ? C'est une vieille question, ça.
Est faite ? Je crois que oui. Moi, je pense que oui. Alors après, Michel Platini l'a rappelé récemment, le problème de la France, c'est d'avoir le statut de favori. Parce qu'en fait, ça peut être très lourd à porter, ça peut donner sur le terrain ce qu'on a déjà vu de la part de certaines équipes. Parfois, on prend les adversaires de haut, on a joué le match avant de rentrer sur la pelouse, enfin tout ce qu'on entend et tout ce qu'on dit, et que parfois, on vérifie sur une pelouse. Donc, prendre l'adversaire de haut, ça peut mener très loin. Mais je pense que...
C'est pas a priori le style de Didier Deschamps.
Voilà,
en fait.
Exactement. Ouais. Et je pense que on parle évidemment des stars de Mbappé, de Giroud, de Griezmann, de Benzema et puis des autres, de Paul Pogba bien sûr, qui a montré combien il est important et efficace dans ce match contre la Bulgarie. Je pense que l'architecte en tout cas de tout ça est vraiment le pilier, c'est évidemment Didier Deschamps. Didier Deschamps qui est dans ce milieu du football français depuis si longtemps, il est quand même avec l'OM qui gagne la seule Ligue des Champions jusqu'à présent en France, à jamais les premiers, il est dans cette équipe. Ensuite, il est en 98 avec Zidane. Il est en 2000 avec les champions d'Europe. Et puis, depuis, on connaît son parcours avec des équipes. Il a mené l'OM à être champion de France en 2010. Donc, il a l'art de motiver les troupes, de bien choisir évidemment son 11 type, comme on dit, les 11 titulaires. Et puis, il a l'art de laisser ses joueurs concentrés. Je pense qu'il l'avait très bien montré en Russie. Et en Russie, avec en plus ce côté, on a perdu la finale au Stade de France de l'Euro en 2016 face au Portugal. Et on n'a plus envie de perdre.
Et il s'attache, semble-t-il, aussi à la psychologie, au caractère des joueurs.
Beaucoup. Là, par exemple, on a eu une petite polémique autour de Giroud, sans doute un peu marri de son style devenu remplaçant.
Il faut rappeler ce qu'est cette petite polémique après le match contre la Bulgarie.
Il y a Karim Benzema qui sort parce qu'il est blessé à la 40-41e minute. Donc Giroud tout de suite prend sa place, la place qu'il avait avant, mais qu'il a perdu malheureusement parce que à Chelsea, il n'est plus titulaire, même s'il a eu une importance énorme dans la course au titre et à la Coupe d'Europe avec les Blues. Et donc, c'est Benzema qui le remplace. Là, il, à la faveur eh bien, de la blessure, il remplace Benzema. Et à la fin du match, malgré le doublé qu'il inscrit en fin de partie, il se plaint un peu en disant « oui, bah, si on passait plus la balle, je marquerais plus ». Alors les regards se sont un peu tournés vers Kylian Mbappé, peut-être à tort, peut-être trop, peut-être que il y a d'autres joueurs aussi qui étaient visés, mais il n'a pas dit aucun mot.
Qui préférerait jouer avec Benzema.
Voilà, alors tout de suite, Didier Deschamps a éteint l'incendie en disant oui, parce que peut-être que son jeu de rapidité, de complicité, il a jamais joué avec Benzema, puisque l'un joue au Real et l'autre au PSG, et qu'ils n'ont pas été en équipe de France ensemble en 2014 à la Coupe du Monde, il n'y était pas Mbappé. Mais il y a eu cette espèce de petit soupçon. Et du coup, mais Deschamps a très bien fait le travail et tout de suite, ayant vendu cela, lui et son adjoint Guy Stéphan ont tout de suite dit non, mais c'est pas le seul. Et puis d'abord, il a eu la balle. Et puis voilà, et je pense qu'en interne, ça s'est réglé. D'ailleurs, il y a eu des images hier de la Fédération française les montrant à l'entraînement, les montrant se passant le ballon et les montrant se faisant un petit geste. Donc tout va bien théoriquement.
Donc l'incident est clos théoriquement, mais est-ce que c'est pas là quand même le signe d'une, je dirais pas d'un malaise, faut pas que j'exagère.
Groupe, forcément,
est-ce qu'il y a autant de sérénité que pendant la Coupe du Monde?
Oui, il y en aura vraisemblablement. De toute façon, dès qu'ils seront dans la compétition et qu'ils vont se retrouver face à l'Allemagne, en Allemagne, ce qui n'est jamais simple, même si l'Allemagne est sans doute moins forte qu'auparavant et moins forte qu'en 2014 quand elle nous avait éliminés en quart de finale à la Coupe du Monde. Sans doute qu'à ce moment-là, quand on est sur la pelouse, qu'on entend la Marseillaise et qu'on doit l'emporter, je pense que là, ces compétiteurs nés qui ont ça dans les gènes oublieront un peu les petites polémiques. En tout cas, il faut l'espérer. Parce que là, effectivement, ça serait ça s'aborderait tous les espoirs que porte cette équipe. La mission, c'est d'aller au moins en demi-finale, a dit le président Noël Le Graët de la Fédération française. Donc, on les attend au moins dans le dernier carré, comme on dit.
Et ce sera la fin d'une génération aussi, parce que Giroud va partir, Benzema aussi peut-être, non ?
Ben, on ne sait pas encore, parce que vous avez vu que des gens comme Cristiano Ronaldo, qui a 37 ans, continuent à jouer. Et là, Cristiano Ronaldo fait l'Euro et aimerait bien faire la Coupe du Monde en 2022. On en a parlé dans Radio Foot cette semaine. Vous avez Messi. Ibrahimovic, là, est blessé, mais aurait dû être à l'Euro avec la Suède et il a 40 ans. Les athlètes, maintenant, s'entretiennent ou sont entretenus, en plus, parce qu'ils ont tout un groupe de personnes autour, entre ceux qui s'occupent du physique, ceux qui s'occupent de l'alimentation, de l'hygiène de vie, les clubs les mettent dans des bulles, comme on dit. Ils sont vraiment, c'est des horloges suisses, et donc ils font très attention. Et notamment Benzema, par exemple, s'est beaucoup amélioré, a un physique beaucoup plus mince et beaucoup plus athlétique peut-être qu'auparavant, parce qu'il mise là-dessus pour contrebalancer l'âge qui avance. Et peut-être qu'on les verra à la Coupe du Monde 2022, c'est pas dit. Et d'ailleurs, le groupe a évolué, par rapport même aux champions du monde 2018, on n'a pas tout à fait le même effectif, et malheureusement sans doute pas le même effectif qu'on aurait eu en 2020 si vraiment l'Euro avait eu lieu l'année dernière.
Qui sera le successeur de Didier Deschamps?
Ah.
Un certain Zinedine Zidane.
J'aimerais bien le savoir. C'est écrit, mais quand cela aura-t-il lieu? Didier Deschamps dit « je suis encore là pour longtemps ». Alors on verra, il a un contrat encore pour quelques temps, en tout cas jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2022. Donc pour l'instant, je pense que si les résultats sont toujours aussi bons, il n'y a pas de raison qu'on conteste sa place.
Écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique donc, comme chaque samedi, un clin d'œil à 10 auditeurs qui nous écoutent en Afrique. Je les sais particulièrement intéressés par le football et par le travail de Radio Foot International. Un salut aujourd'hui à Youssou qui est journaliste à Bamako, à Flori qui est étudiant à Kinshasa, un auditeur attentif, à Jean à Bamako, à Niriana à Madagascar. Bonjour également à Gallo et à Mamadou Lamine à Dakar, à Gabriel à Nouakchott, à David à Bukavu en RDC. Un salut à Soufianou Aliou à Accra et à Normand Melam à N'Djamena.
Une semaine d'actualité.
Après plus de 8 ans d'engagement massif, Emmanuel Macron a donc annoncé jeudi une réduction de la présence militaire française au Sahel, marquée par la fermeture de bases et une réarticulation de la lutte anti-djihadiste autour d'une alliance internationale associant des Européens. La fin donc de l'opération Barkhane. Florence Maurice.
La forme de notre présence au Sahel n'est plus adaptée à la réalité des combats, a déclaré le président Macron. Concrètement, l'annonce faite hier ne signifie pas que la France se retire de la région, mais qu'elle va réduire ses effectifs. Emmanuel Macron a parlé de plusieurs centaines de soldats contre plus de 5000 aujourd'hui. Il a aussi évoqué la fermeture de certaines bases de l'armée française, sans préciser lesquelles. Mais c'est surtout le cadre de cette présence française qui va évoluer. L'idée est de se concentrer exclusivement sur la lutte contre le terrorisme et non plus de sécuriser de vastes zones où les États concernés peinent à reprendre pied, et de le faire au sein d'une alliance internationale, une alliance structurée autour de la force européenne Takuba, appelée à monter en puissance, a dit Emmanuel Macron, et dont la France restera la colonne vertébrale, mais à laquelle seront associées d'autres forces africaines et internationales. Pas plus de précisions à ce stade, ni de calendrier. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse consacré à divers sujets. Ce nouveau dispositif devrait être au menu du prochain Conseil européen prévu le 24 juin.
Florence Maurice, hier vendredi, et écoutons un court extrait des propos d'Emmanuel Macron.
La présence durable dans le cadre d'opérations extérieures de la France ne peut pas se substituer au retour de l'État et des services de l'État, à la stabilité politique et au choix des États souverains. Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l'anomie parce que des États décident de ne pas prendre leurs responsabilités. C'est impossible. Ou alors c'est un travail sans fin.
Partons maintenant pour le Burkina Faso, Annie Gasnier. Après l'attaque de la localité de Solan dans le nord-est du pays qui a fait près de 200 victimes il y a une semaine, des milliers de familles ont fui après cette attaque. Attaque dans une zone aurifère qui permet aux terroristes de se financer. Les mines doivent fermer, disent d'ailleurs les autorités. Correspondance mardi de Yaya Boudani.
Le colonel-major Salfo Kabore, gouverneur de la région du Sahel, invite donc les miniers à déguerpir des lieux. Ces sites, selon une étude de l'Observatoire économique et social, servaient à financer le terrorisme. Et dans le Sahel burkinabé, cela se manifestait par le prélèvement de taxes et impôts par les groupes armés, souligne Bernabé Kambou, qui a coordonné l'étude sur le système de financement du terrorisme. L'autofinancement est la principale force des groupes terroristes actifs aujourd'hui dans la région sahélienne, fait-il savoir. Ce que le gouverneur a fait est une mesure salutaire, car les dernières attaques sont liées à une volonté de contrôle des sites aurifères par les groupes armés terroristes, souligne Bernabé Kambou. Les sites aurifères artisanaux étaient jusque-là épargnés par les attaques, car ces groupes armés recevaient leur part de l'exploitation minière, selon le chercheur Mahamoudou Savadogo. Reste au gouvernement de se donner les moyens pour faire respecter cette mesure et surveiller ces sites, sinon, souligne le chercheur Mahamoudou Savadogo, ce serait du pain béni pour les groupes armés après le départ des populations.
À noter également dans l'actualité africaine la mort d'Aboubakar Shekau, le chef du groupe islamiste Boko Haram au Nigeria.
7 jours en Afrique.
Et partons maintenant pour la République démocratique du Congo, pour Goma, où la population est de retour après l'éruption du volcan Nyiragongo le 22 mai dernier, dans cette ville de plus d'1,5 million d'habitants. Reportage mardi de Patient Ligodi avec des vulcanologues.
Pour appuyer le travail de l'Observatoire volcanologique de Goma sur le terrain, des scientifiques européens ont fait le déplacement sur site pour mesurer le danger. Nicolas Doré travaille pour le Musée national d'histoire naturelle du Luxembourg et au Centre européen des géodynamiques des sismologies.
On a vraiment vu cette injection du magma sous le sol qui est parti du volcan, qui est passé sous la ville de Goma, qui s'est arrêté un peu plus loin sous le lac Kivu. Et donc c'est une injection qui fait à peu près une vingtaine de kilomètres de long.
Et actuellement, la situation se stabilise, comme l'a également constaté Benoît Smet, lui aussi expert, venu jusqu'à Gouma.
On a une activité sismique qui a tendance à se calmer. On a une déformation du sol qui semble s'être arrêtée. On serait plutôt à une stabilisation et donc à un arrêt de cette crise, en tout cas pour le magma qui est en profondeur. Oui.
Plusieurs milliers de déplacés n'avaient pas attendu les mots d'ordre des autorités pour rentrer chez eux. Et ce retour massif s'explique par l'urgence de retrouver des activités économiques habituelles. C'est le constat des experts dont fait partie la géographe belge Caroline Michelier, spécialisée dans l'évaluation de la vulnérabilité et des risques de la population face au volcan.
Les habitants de Goma considèrent le risque volcanique avec une moindre mesure que le bénéfice qu'ils peuvent tirer d'habiter dans cette ville qui procure beaucoup d'opportunités dans différents domaines.
À ces stades, l'observation de l'activité du Nyiragongo se poursuit. Un groupe de 20 experts scientifiques a été créé pour suivre la situation.
Avant de vous retrouver, Annie Gasnier, partons en Éthiopie où le conflit continue dans la région du Tigré. Depuis le début de cette guerre, les civils paient le plus lourd tribut. Reportage dans le centre de la province, à El Hassa, précisément signé Sébastien Demet.
El Hassa comptait 1500 habitants avant la guerre, mais ils ne sont plus que quelques centaines. Pendant 4 jours, la localité a été la ligne de front d'une bataille entre les militaires et les forces de l'ancien pouvoir du TPLF. Mergueta, 65 ans, n'a jamais connu un conflit comme celui-là.
Au moins 20 maisons ont été détruites pendant les combats. Les ENDF et les Érythréens ont pris le dessus, sauf qu'ils ont aussi attaqué les habitants. Ils ont volé la nourriture, le bétail, abattu les gens chez eux sans raison. On a compté 18 morts. J'ai dû fuir vers une zone désertique sans eau. Des riverains m'ont nourri et j'ai survécu. J'ai vu des combats dans ma jeunesse quand les Tigréens affrontaient la dictature du DERG. Mais là, c'est différent. Cette fois, les civils font partie des cibles.
Le centre de santé du village a été entièrement pillé puis détruit par les soldats. Getachew est un membre du gouvernement intérimaire. Pour lui, ces destructions ont un but précis.
Les soldats se fichent des civils. Ils veulent leur couper l'accès aux soins pour qu'ils meurent, simplement parce qu'ils sont tigréens. Quand la bataille a commencé, on a pris une partie des médicaments pour les cacher dans nos maisons. Mais les soldats ont fait du porte-à-porte et ils ont tout détruit. Aujourd'hui, quand une personne tombe malade, si elle a de la chance, elle survit. Sinon, elle meurt.
Aujourd'hui, les habitants d'El Hassa survivent grâce à un peu d'aide humanitaire, mais beaucoup prennent la route des camps de déplacés. Le village, comme beaucoup d'autres, pourrait bientôt devenir une ville fantôme.
Une semaine d'actualité.
Et nous sommes toujours en compagnie d'Annie Gasnier, notre consoeur, spécialiste de football, productrice de l'émission Radio Foot International. J'ai pas besoin de vous présenter cette émission, évidemment. D'ailleurs, je voudrais adresser un petit salut à toute l'équipe de Radio Foot International, David Finzel, Pierre Guérin et Laurent Salerno, qui font un travail magnifique. Alors, est-il nécessaire de dire que pour l'Afrique, les Africains, le football est aussi une passion?
Oui, il suffit d'aller sur le terrain une fois ou deux pour s'en apercevoir.
Et vous l'avez vu de vos yeux vus.
Complètement, l'importance que peut avoir les matchs. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est comment ils ont une fascination pour certains joueurs, pour certains personnages aussi du football actuellement. Je m'interroge toujours sur la fascination que les Africains ont pour, par exemple, José Mourinho. Et ça, c'est incarné par Rémi Ngono, qui est un de nos chroniqueurs, le vendredi dans le Café des Sports. Parce que c'est vrai que c'est un personnage qui a tout pour être désagréable a priori, mais José Mourinho. Alors après, il y a la fascination aussi pour Cristiano Ronaldo, mais là il le rend bien sur le terrain et dans les résultats. C'est vraiment un grand champion et un champion exemplaire. Et puis il y a un attachement pour les clubs historiques en Afrique, la Juventus qui est un vieux club, alors Chelsea, ça c'est évidemment grâce au passage de Didier Drogba, c'est le Real Madrid. Il y a des clubs comme ça qui sont phares. Alors bien sûr, quand on parle Real Madrid, il y a aussi une passion pour l'Atlético. Après, les gens un peu plus âgés aimeront encore Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, ça a été les grandes années du football français. Donc c'est très intéressant de parler de ce football. Et puis dans Radio Foot, je pense qu'on intéresse aussi nos auditeurs vers d'autres footballs, et notamment le football sud-américain dont on parle, et aussi le football féminin.
C'est ça qui est notable dans votre émission. France et que tous les footballs y sont présents, masculins et féminins, effectivement, Annie Gasnier. Et il y a en Afrique une grande compétition qui s'appelle la CAN.
La CAN, qui est un peu le pendant de l'Euro. De toute façon, c'est la grande compétition. C'est une compétition qui se déroule théoriquement tous les 2 ans. Il y a peu de compétitions dans le continent africain. Les coupes, Ligue des Champions, tout ça, c'est pas encore comme la Ligue des Champions européenne. Et malheureusement, cela a dû au niveau du football et des clubs. Et donc, c'est vrai que la CAN, c'est le grand rendez-vous. Et ce rendez-vous qu'aime aussi et avant tout les internationaux africains, de se retrouver alors une fois au Gabon, une fois au Cameroun, une fois en Côte d'Ivoire ou en Égypte pour disputer une compétition, c'est être en prise quand même avec les supporters et avec le contexte, parce que ça sera jamais aussi bien huilé qu'en Europe, et des fois ça fait aussi des beaux souvenirs.
Et dans quelques mois, il y aura une nouvelle édition de la CAN.
Au moins en janvier prochain, ouais. Et ça sera au Cameroun enfin, puisque le Cameroun aurait dû organiser l'édition de 2019. Et là, ça sera finalement en janvier 2022.
Avec des problèmes parfois d'organisation, non ?
C'est pour ça officiellement qu'elle n'a pas eu lieu en 2019 et qu'elle a été déplacée du côté de l'Égypte. Maintenant, on a vu en tout cas durant le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations en janvier dernier, que les installations étaient pratiquement prêtes, et je pense au stade de Japoma de Douala qui est flambant neuf et qui est magnifique. Donc oui, a priori, le Cameroun sera prêt pour le grand coup d'envoi de la compétition en janvier prochain.
Alors que faut-il dire, Annie ? Vive le football !
Vive le football, et il faudrait aussi peut-être, pour ce qui est du côté de l'Afrique, qu'il y ait une plus grande professionnalisation, je crois. Quand on parle de la théorie du ruissellement en économie, ça marche pas tellement, mais je pense que dans le football, ça marche. En tout cas, si on avait des dirigeants plus professionnels, si on avait aussi des dirigeants de clubs plus professionnels, je pense que le problème de l'Afrique, c'est que les talents sont détectés très tôt et finalement s'épanouissent ailleurs ou sont formés ailleurs. Et d'ailleurs, les sélections, des fois, ça fait un peu mal au cœur, parce que les sélections se sont devenues des sélections de binationaux qui sont souvent nés en Europe, formés en Europe. Et je me souviens que l'équipe d'Algérie, qui est championne d'Afrique, finalement, je crois qu'une vingtaine des joueurs est née du côté de l'Europe, donc formés en Europe. Après, on a des contre-exemples. Sadio Mané est le contre-exemple, formé au Sénégal. Et d'ailleurs, le Sénégal est un contre-exemple. Il y a 3 académies, 3 centres de formation et qui forment des footballeurs, mais qui aussi, et ça, je pense beaucoup à Diambar, mais aussi à Génération Foot, ils ont aussi le souci de former des citoyens. C'est-à-dire, c'est une école de la vie, avec cet écrémage terrible que représente le monde du football, parce qu'il y en a un sur 1000, ou je sais plus les statistiques, mais c'est affolant, qui réussira, qui sera un jour un Cristiano, un jour un Sadio Mané, un jour un Didier Drogba, mais en tout cas, qui leur apprennent aussi, qui les construisent en tant que citoyens, et ça, c'est sans doute ce qu'il faut faire et le plus important.
Essayer de continuer ses études tout en étant dans des écoles de football, surtout.
Oui, c'est ce que Edouard Mendy, là, récemment, le gardien de but du Sénégal, lui qui est né en France, pendant un moment on ne s'intéressait pas trop à lui, et du coup, en parallèle, il faisait ses études. Et finalement, il est champion d'Europe avec Chelsea.
Merci Annie Gasnier, Radio Foot International, et désormais le vendredi sur France 24.
Effectivement, on peut aussi nous voir, alors jusqu'à présent c'était en Facebook Live, mais maintenant on peut nous voir sur une chaîne de télévision, et c'est sur la chaîne France 24 le vendredi soir, en fin de soirée.
Merci Annie, et bon courage pour les semaines qui viennent.
Oui, ça va être chaud.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée, qui lui aussi parlera football. Figurez-vous, Annie, c'est le week-end football, décidément. Nous serons en effet en compagnie de l'écrivain et grand amateur de ce sport, Olivier Guèze, avec lequel nous parlerons de cette passion souvent étrange, de cet amour du football. Demain dimanche, 15h10, temps universel, 17h10, heure de Paris. Bonne fin de semaine, dans un instant, un nouveau journal sur RFI.